Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mohamed Oumfa.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, viol et violences sexuelles contre les femmes dans les zones de conflit, le cas du Soudan. Les femmes soudanaises payent un lourd tribut dans la guerre qui oppose depuis plus de 20 mois l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan aux paramilitaires des FSR, les forces de soutien rapide de son ancien adjoint Mohamed Hamdan Daglo. L'unité gouvernementale de lutte contre la violence envers les femmes et les enfants affirme que 554 cas de viol entre avril 2023 et décembre 2024 ont été commis, des chiffres qui ne représentent qu'une fraction du nombre réel d'attaques selon cette unité. À suivre le reportage de Henry Wilkins à la frontière entre le Tchad et le Soudan et l'analyse de Mouma Bi Yvonne, présidente des femmes camerounaises pour la paix. Nous parlerons ensuite d'un programme de migration temporaire en Espagne auquel participent des jeunes Gambiens lancés par les autorités espagnoles pour lutter contre l'immigration clandestine. Cette initiative permet à des migrants de travailler temporairement en Espagne avec un contrat avant de rentrer chez eux. Le fait marquant de la semaine, c'est l'organisation des assises nationales au Niger du 15 au 19 février prochain. Ces assises sont notamment censées fixer la date de la durée de la transition ouverte après le renversement du président Mohamed Bazoum en 2023. Nous en parlons avec Abdoul Razak Idrissa, correspondant de VOA Afrique au Niger. Et puis, nous vous amènerons au Mali où la 10e édition du festival Ogo Banya s'est déroulée à Bamako. Le festival a rendu un vibrant hommage à la culture d'Ogon. La région d'Ogon, autrefois touristique, est difficile d'accès depuis des années par la crise sécuritaire. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage d'informations et de découvertes dans le Sahel. Les violences sexuelles sont une menace constante pour les femmes de la région du Darfour au Soudan, théâtre d'un sanglant conflit armé. Cette violence n'épargne pas les déplacés et les réfugiés qui ont pourtant fui la guerre. Henry Wilkins de la VOA s'est rendu dans un camp de réfugiés situé à la frontière tchadienne avec le Darfour. Il a recueilli le témoignage de certaines femmes sur le phénomène du viol par le bois de chauffage. Écoutez et regardez son reportage relaté par Michel Joseph.
À la frontière entre le Tchad et le Darfour, des réfugiés s'aventurent dans la brousse pour ramasser du bois de chauffage. Les femmes témoignent qu'elles parcourent parfois plusieurs kilomètres à la recherche de branches ou de racines d'arbres à brûler pour la cuisine. Mais ce que l'on appelle le viol du bois de chauffage est un phénomène bien trop courant ici. Amina, une réfugiée, raconte qu'elle était en train de ramasser du bois lorsque son groupe a été approché par des hommes armés de couteaux et de haches.
Nous nous sommes enfuis. Ils ont attrapé l'une d'entre nous. J'ai été blessée à la taille, mais je me suis enfuie.
La VOA a changé les noms et caché l'identité de toutes les femmes interviewées dans ce rapport pour les protéger des représailles. Les agressions sexuelles contre les femmes qui ramassent du bois de chauffage sont un phénomène courant dans les camps de réfugiés, selon les chercheurs. Pour Amina, il n'y a pratiquement pas d'échappatoire à la menace de la violence sexuelle. Avant de fuir ici, elle a vu d'autres femmes se faire agresser sexuellement par des membres des forces paramilitaires de soutien rapide chez elle, au Darfour.
Ils ont battu et harcelé les gens. Ils ont violé et tué. J'ai vu ce qui est arrivé à des filles devant moi et à des vieilles dames.
Les groupes de défense des droits disent avoir enregistré des dizaines de viols de femmes par les milices associées à RSF au Darfour. Fatoumata, une réfugiée, dit qu'elle et sa fille ont été victimes des FAR.
Ils m'ont violée, ils ont violé ma fille et elle est morte. Nous ne dormons pas la nuit parce que nous avons peur qu'ils viennent nous tuer. C'est un cauchemar qui ne s'arrête jamais.
Pour ces femmes, que ce soit dans les broussailles, à l'extérieur du camp, ou dans les maisons qu'elles ont fui au Darfour, l'ombre de la violence sexuelle plane toujours.
C'était donc là le reportage de Henry Wilkins, relaté par Michel Joseph. Et pour analyser ce phénomène de viol et violence sexuelle contre les femmes dans les zones de conflit, retrouvons à Yaoundé, au Cameroun, Mouma Bi Yvonne. Elle est la présidente des femmes camerounaises pour la paix. Bonsoir, Madame Mouma Bi Yvonne.
Bonsoir Mohamedou, enchanté une fois de plus.
Merci une fois de plus.
M'avoir.
Voilà, merci une fois de plus de participer à ce programme. Alors, comment expliquer, vous venez certainement de suivre le reportage des femmes qui vont chercher du bois, qui sont violées au Soudan, au Darfour, dans une zone en guerre, dans les zones de conflit. Comment expliquer l'utilisation et la multiplication des violences sexuelles contre les femmes dans les zones de conflit?
Alors, les violences sexuelles sont couramment devenues une arme de guerre. Quand ces femmes, comme nous tous nous avons suivi, vont en forêt pour chercher du bois, vous savez que quand les hommes portent les armes, ils ne viennent pas habiter en ville. Ils sont dans la forêt et quand ces femmes y vont, étant donné que ces hommes sont dans la forêt, on ne peut pas savoir pendant combien de temps. Ils prennent ces femmes pour des victimes. Ils prennent ces femmes comme des armes de guerre. Ils se défoulent même sur ces femmes. Donc, et ces femmes ne peuvent pas ne pas aller chercher le bois, parce que sans bois, elles ne peuvent pas manger. Même quand ce n'est pas en forêt, quand ils ont incursion dans un village ou dans une communauté, la majorité de leurs victimes, c'est les femmes et les filles. Ils s'en prennent aux femmes et aux filles, et le résultat, c'est le pire des crimes qu'un être humain peut commettre, le viol.
Justement, quelles sont les conséquences physiques, physiologiques et sociales des violences sexuelles sur ces femmes-là? Comment ces violences affectent-elles les communautés et les familles des survivantes?
Si on a bien écouté le reportage, la dernière maman qui a commenté a dit « Elle a été violée, sa fille a été violée et elle en est morte. » C'est difficile de subir ce genre de traumatisme. Surtout que ces hommes, ce n'est pas un seul, ils viennent toujours en groupe. C'est une agression inexplicable sur les femmes. Et une femme, peut-être cette jeune fille était une vierge qui se sent, n'est pas seulement volée sa virginité, mais détruite pour la vie. Parce qu'ils font ça, je ne pense pas qu'ils se comportent encore comme des êtres humains. Ils sont sauvages et la conséquence, c'est parfois la mort, c'est parfois le traumatisme à vie. C'est parfois... Vous voyez parfois des filles qui se transforment en travailleuses de sexe parce qu'elles disent « j'ai été détruite, je vais passer ma vie à détruire d'autres ». C'est vraiment un traumatisme compliqué à guérir.
Au-delà même des conséquences sur ces victimes, il y a aussi des conséquences pour leur famille, pour leurs époux et pour la société.
Oui, le regard de la communauté. Alors, c'est souvent pour ça qu'on dit de protéger les victimes et même les survivantes. Parce que quand cette histoire est exposée et qu'elle est au vu au sur de la communauté, cette personne devient, je ne peux même pas commencer comment décrire, une personne que la communauté ne veut plus voir. Pourtant, ce n'est pas sa faute. Cette personne est victime. Devait plutôt être aimé et accompagné à survivre ou bien à se dépasser de ce traumatisme. Mais la communauté a un regard très mauvais sur des filles et des femmes violées.
Alors, malgré l'augmentation des cas de violences sexuelles dans les zones de conflit, il semble quand même difficile de poursuivre les auteurs de ces violences-là. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'il y a des difficultés à suivre les auteurs de ces violences et comment il faut mettre fin à cette impunité?
S'il faut mettre fin, je commence par la fin, s'il faut mettre fin à cette impunité, il faut arrêter tous ces ces guerres. Il faut arrêter tous ces conflits armés parce que la majorité des coups de là, même comme on ne dit pas qu'en société normale, il n'y a pas les cas de viol. Les femmes sont... Ces violences sont exacerbées sur les femmes qui ne demandent rien qu'à vivre. Elles n'ont pas porté des armes. Pourquoi elles, les victimes? Et comment est-ce qu'on va punir des personnes qu'on ne peut même pas pointer du doigt ou bien mettre la main sur? C'est des personnes qui apparaissent de nulle part, qui posent ces actes ignobles et qui disparaissent. Comment est-ce qu'on peut les punir? Mais même dans les communautés, quand on a attrapé les violeurs, il faut que les sanctions soient sincèrement sévères. La féministe en moi va dire, pourquoi ne même pas les castrer? Pourquoi détruire la vie d'une jeune fille ou d'une femme? Si ces violeurs considéraient les femmes comme leurs sœurs, comme leurs époux, comme parentés à eux, je ne pense pas qu'un homme peut se mettre à violer aussi sauvagement les femmes qui mènent même à la mort. Pas seulement les femmes, les filles et même les jeunes enfants. Imagine-toi. Et ça pousse à la communauté même à penser à la vengeance. Imagine si tu attrapes, Mohamedou, un être mature sur ton enfant de 5, 6, 7, ton enfant. Mais tu es poussé vers l'extrême. Tu penses à seulement l'éliminer. Donc, c'est vraiment à repenser même dans la société. Il faut que les législations, les juridictions punissent très, très sévèrement les violeurs.
Alors, vous avez dit qu'il faut aimer encadrer ces personnes. Je voudrais maintenant vous interroger sur la prise en charge des survivantes. Comment réussir la prise en charge sur le plan médical, psychologique, social?
Tant qu'on sait qu'on vit en situation de crise, nous recommandons des one-stop centers, des centres et avec des numéros verts d'appel où ces jeunes dames ou les dames victimes de viols peuvent aller se réfugier et avoir la prise en charge holistique. Il faut des centres d'accueil où ces femmes peuvent trouver des médecins, trouver des psychologues, trouver tout le monde qui est dans la chaîne de prise en charge et qu'elles repensent à revivre. Parce que parfois, la majorité pense à se suicider ou se ferme dans cette situation et cherchent à planifier comment ils vont tuer. Elles vont tuer ceux qui ont perpétré cet acte. Si la personne est connue. Donc, il faut une prise en charge holistique dans la communauté des victimes de toutes ces formes de violence, surtout le viol.
Merci beaucoup, Mouma Bi Yvonne. Je rappelle que vous êtes la présidente des Femmes Camerounaises pour la paix. Vous étiez en direct de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Un grand merci également à tous ceux qui ont réagi sur ce sujet dans nos différentes plateformes digitales. C'est par exemple le cas sur Facebook où réagit Alphonse Mbouaki qui dit « Je pense que beaucoup de pays en Afrique et ailleurs doivent imposer l'apprentissage des arts martiaux aux filles au sortir du cycle secondaire pour les aider dans les quartiers pour qu'elles se défendent contre les violences sexuelles. Il y a Lasga Sek qui a dit « Le conflit soudanais n'attire pas l'attention de la communauté internationale tandis que les deux généraux avides de pouvoir perpétuent le massacre des populations civiles. » Merci donc à Alphonse Bouaki et Lasga Sek. Merci à tous ceux qui ont réagi dans nos différentes plateformes digitales. La suite de Focus Sahel, c'est dans quelques instants. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, Rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Merci d'écouter et de regarder Focus Sahel. Rendons-nous maintenant en Gambie, précisément à Bako, une ville située sur la côte atlantique du pays, à l'ouest de la capitale Banjul. Là-bas, des jeunes se sont mobilisés pour participer au programme de migration temporaire en Espagne, lancé par les autorités espagnoles pour lutter contre l'immigration clandestine. Cette initiative permet à des migrants de travailler temporairement en Espagne avec un contrat avant de rentrer chez eux. Yacouba Ouédraogo nous en dit davantage.
Debout ou à même le sol, ces jeunes Gambiens de Bakau ont pris d'assaut les bureaux du ministère du Travail ce jour tôt le matin. Tous remplissent ces formulaires, espérant être choisis pour participer à un programme de migration temporaire en Espagne.
Je veux aller travailler là-bas pour trouver de meilleures opportunités. Ici, nous dépendons tous de l'agriculture, mais nous ne disposons pas de suffisamment de produits pour subvenir à nos besoins. C'est pour ça que nous espérons tenter notre chance avec cette opportunité. Je peux y aller, travailler comme convenu, gagner un salaire et y rentrer chez moi à la fin du contrat.
Dans l'espoir d'atteindre l'Europe, de plus en plus de migrants, en majorité des jeunes, empruntent la dangereuse route maritime pour rejoindre les Canaries espagnoles depuis les côtes ouest africaines. Lors d'une tournée en Mauritanie, en Gambie et au Sénégal fin août 2024, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a promis de développer la migration circulaire. Ce programme permet à des migrants de travailler en Espagne avec un contrat pendant une période limitée pour répondre aux besoins d'un secteur précis avant de rentrer chez eux.
On nous a dit que le travail serait lié à l'agriculture, ce qui n'est pas un problème pour moi car je suis déjà agriculteur. En ce moment, j'ai mon propre jardin où je fais pousser des oignons et du riz pendant la saison des pluies. L'agriculture est mon gagne-pain. Je suis donc très enthousiaste à l'idée d'avoir cette opportunité.
En 2024, près de 47 000 personnes ont tenté de rejoindre l'Europe en prenant la mer depuis les côtes ouest africaines jusqu'aux Canaries espagnoles, selon l'agence Frontex. Plus de 10 400 migrants sont morts ou ont disparu en mer en tentant de rejoindre l'Espagne en 2024, selon l'ONG Caminando Fronteras. À la question de savoir si ces potentiels migrants temporaires reviendront dans leur pays, d'aucuns sont catégoriques.
Par la grâce d'Allah, lorsque nous irons là-bas, nous tiendrons notre promesse. Il y a tellement de points qui mentionnent si on peut travailler, si on peut faire des heures supplémentaires. Quand on ira là-bas, on fera de notre mieux pour leur donner satisfaction.
En attendant, il faudra d'abord passer l'étape de la sélection. Et ce n'est pas toujours simple. À Bakau, la distribution des formulaires avait dû être suspendue lundi quand des candidats à l'immigration ont escaladé l'enceinte de la cour du bâtiment et que des bagarres ont éclaté. Une scène similaire avait eu lieu mardi dernier à Dakar au Sénégal. Pour éviter les bousculades, l'État sénégalais a instauré le dépôt des dossiers en ligne.
À présent, le fait marquant de la semaine. Au Niger, les autorités de la transition prévoient d'organiser du 15 au 19 février des assises nationales censées notamment fixer la durée de la transition ouverte après le renversement du président Mohamed Bazoum en 2023. La date des assises a été fixée par le ministère de l'Intérieur dans un communiqué lu à la télévision d'État dans la nuit de samedi à dimanche. Pour en parler, retrouvons à Niamey Abdoul Razak Idrissa, correspondant de VOA Afrique au Niger. Bonsoir Abdoul Razak.
Bonsoir Mamadou.
Alors, du 15 au 19 février, donc, auront les assises nationales là-bas au Niger. Dites-nous Abdoul Razak, dans quel contexte survient l'annonce de ces assises nationales? Qu'est-ce qui a bien pu motiver les autorités de la transition à les organiser en ce moment précis?
Alors, il faut dire que c'est dans un contexte, on va dire, d'attente, de forte attente même, puisque la tenue de ces assises, de ces concertations, a quand même été annoncée dès la première déclaration hein, de prise de pouvoir du général Abdel.
Alors, Abdoul Razak Idrissa, que nous avons peut-être perdu, hein. Abdoul Razak Idrissa qui est perdu. Alors, on va revenir à Abdoul Razak Idrissa dans un instant. On va d'abord écouter et regarder la note positive de cette édition. Et pour cela, on se rend au Mali, où la 10e édition du festival Ogo Banya s'est achevée à Bamako le mardi 4 février dernier. Avec ses danses, ses masques impressionnants et ses lutteurs traditionnels, le festival a rendu un vibrant hommage à la culture Dogon du centre du pays. La région Dogon, autrefois très touristique, est devenue difficile d'accès depuis des années du fait de la crise sécuritaire. Claire Morin-Gibourg nous en dit plus.
Pendant une semaine, la culture Dogon a été transportée en pleine capitale Bamako avec la reconstitution d'un village traditionnel sur les berges du majestueux fleuve Niger. Placée sous le thème « Tradition africaine et modernité », la 10e édition du festival a été un franc succès selon son organisateur Pierre Adeyé Togo. Le moment phare de chaque édition reste le défilé des masques tutélaires du pays Dogon.
La cérémonie de danse des masques est un élément important pour l'histoire, pour la communion des Dogons, puisque c'est une cérémonie qui permet aux âmes de nos patriarches défunts d'intégrer le monde des ancêtres qui est supposé être le monde du paradis.
Cette année, en plus des activités traditionnelles, de nouvelles épreuves comme la lutte traditionnelle, les courses de pirogue et un espace dédié aux enfants ont été créés. Mais ce sont les danses qui ont été préférées par le public.
Bon, à Boulan, pour vous faire.
J'en ai eu la chair de poule. C'est une danse qui raconte notre histoire, celle des Dogons, notre passé depuis l'enfance. Cela m'a permis de me ressourcer.
Le chef de la transition, le général Assi Goïta, a proclamé 2025 comme année de la culture. Et avec la participation d'artistes venus du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal et de la Guinée, le festival Ogo Banya 2025 a pris une dimension sous-régionale.
Merci beaucoup Claire Morin-Gibourg. Alors on va revenir pour parler de du fait marquant de la semaine au Niger. Je le disais, les autorités de la transition prévoient d'organiser du 15 au 19 février des assises nationales, censées notamment fixer la durée de la transition ouverte après le renversement du président Mohamed Bazoum en 2023. La date des assises a été fixée par le ministère de l'Intérieur dans un communiqué lu à la télévision d'État dans la nuit de samedi à dimanche. Retrouvons à Niamey Abdulrazak Idrissa, correspondant de VOA Afrique au Niger. Alors, Abdulrazak, revenons sur le contexte de l'annonce de ces assises. Quel est le contexte et qu'est-ce qui a motivé les autorités de la transition à les organiser maintenant?
Alors, donc, je dirais le contexte, c'est vraiment un contexte d'attente, de forte attente même, on va dire, puisque la tenue de ces assises, on va dire, de cette concertation nationale, a quand même été annoncée dès la première déclaration de prise de pouvoir par le CNSP, à travers son président, le général Abdrahmane Tchiani, qui a annoncé qu'il y aurait incessamment donc des assises nationales au cours desquelles donc plusieurs sujets seront débattus. Donc, on est dans ce contexte aujourd'hui. On est à presque 18 mois de cette prise de pouvoir, donc de cette annonce que ces assises ne se sont pas tenues. Maintenant qu'elles ont été annoncées pour le 15 février prochain, et donc c'était attendu vraiment. Maintenant, pour les motivations, c'est assez difficile de répondre, mais il faut quand même souligner que c'était une volonté du chef de l'État dès sa prise de pouvoir de réunir l'ensemble des couches socioprofessionnelles du pays pour discuter de plusieurs sujet. Et donc la motivation, on va dire qu'elle était là, et à toutes les occasions où il a été interrogé, en tout cas depuis qu'il a annoncé donc la tenue de cette concertation, il a indiqué à chaque fois que chaque chose vient à son temps. Et c'est donc aujourd'hui que le temps de la tenue de ces assises nationales est venu et ça a été annoncé.
Alors Abdulrazak, en quoi consistera exactement ces assises? Qui sont les personnes conviées et de quoi vont-elles débattre exactement? Et qu'est-ce qui pourrait en sortir?
Alors, les personnes, c'est, comme je le disais, c'est pratiquement les représentants des différentes couches socioprofessionnelles du pays. Et il va y avoir plus de 600 personnes, en tout cas près de 700, on va dire, personnes qui ont été invitées, aussi bien de l'intérieur que de la diaspora, l'intérieur du pays que de la diaspora, mais bien évidemment des représentants aussi de structures au niveau de la capitale Niamey. Donc ça, c'est pour les personnes qui vont y prendre part, et c'est vraiment assez divers, assez inclusif, on va dire, et presque tout le monde, en tout cas toutes les couches sont représentées. Alors, sur la question de quoi est-ce qu'ils vont débattre, essentiellement, en tout cas, au vu du communiqué qui a été lu à la télévision d'État, qui annonce la tenue de ces assises, il y a un point important qui est ressorti, parce que tous les autres aspects, c'est des aspects, on va dire, organisationnel, c'est-à-dire que le comité qui a été mis en place, c'est la une commission qui a été mise en place pour organiser, va se charger donc de tout ce qui est préparation, élaboration des projets de référence pour les débats, etc., etc. Mais il y a un point qui est quand même important, c'est celui de la proposition d'une charte, donc les assises vont proposer une charte de la transition. Est-ce que c'est dans cette charte que, par exemple, la durée de la transition va être dite? Ce n'est pas assez indiqué, ce n'est pas assez clairement indiqué dans le texte, mais c'est vraiment une des principales attentes de cette commission, de ces assises, c'est la proposition d'une charte de la transition et qui est attendue donc de ces assises nationales qui vont bientôt démarrer.
Alors, dernière question, Abdoul Razak. Comment est-ce qu'on accueille là-bas à Niamey et au Niger, de manière générale, l'annonce de ces assises dans l'opinion, dans la presse? Est-ce qu'il y a des gens qui trouvent à redire, qui s'opposent à ces assises-là?
Bon, pas jusqu'ici, en tout cas, on n'a pas entendu quelqu'un qui s'y est opposé. Et comme je le disais à l'entame, c'est que c'est quand même quelque chose qui était attendu. Donc c'était plutôt, ça a été plutôt salué, hein, l'annonce de la tenue de ces assises. Et parce que c'était attendu, l'opinion attendait à ce que, justement, entre autres, la charte, la transition, la durée de la transition puisse être clairement dit, même si on ne sait pas trop sur la question de la durée, si c'est à l'occasion de ces assises que ça va être débattu. Donc, c'est plutôt fort bien accueilli, on va dire, hein, l'annonce de la tenue de ces assises. Et on n'a pas, en tout cas, vu pour l'instant de velléité ou en tout cas de personnes qui sont sorties ou de structures qui sont sorties pour s'y opposer. Parce que, comme je le disais, c'était quand même quelque chose qui était assez attendu, puisque dans la tradition des coups d'État au Niger, le Niger a quand même donc cette expérience de coup d'État, il y a eu toujours ces types de rencontres, et donc aujourd'hui ça fait plus de 16 mois que le CNSP est à la tête du pays, les Nigériens ont attendu, maintenant que c'est arrivé, ils ont applaudi, puisque de par le passé, c'est aussitôt quelques semaines après l'intervention des militaires sur la scène politique que ces types de rencontres sont organisées. Cette fois-ci, ça a pris du temps, pour des raisons qu'on ne connaît pas, qui peuvent s'expliquer par exemple par les villes de déstabilisation du pays, l'intervention militaire qui a été un moment agitée et tout le reste, mais c'est quand même quelque chose qui est apprécié au sein de l'opinion que finalement ces assises nationales puissent se tenir à partir de la semaine prochaine.
Merci beaucoup Abdoul Razak Idrissa, correspondant de VOA Afrique au Niger. Une note d'information avant de terminer cette édition de Focus Sahel, rappelons que la base militaire française de Abidjan en Côte d'Ivoire sera officiellement rétrocédée aux autorités de ce pays. Ce sera le 20 février lors d'une cérémonie en présence des ministres de la Défense des deux pays. La date prévue est le 20 février. La Côte d'Ivoire est prête, a indiqué une source ivoirienne, ce qu'ont confirmé d'autres sources côté français. Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, est attendu à Abidjan pour cette cérémonie aux côtés de son homologue ivoirien, Téné Birahima Ouattara. Focus Sahel, stop et fin. Merci d'avoir écouté et regardé. Vous pouvez retrouver cette émission en ligne sur notre site web voaafrique.com et sur les différentes autres plateformes que sont YouTube, Facebook et X. Merci à tous d'avoir nous apporté les nouvelles fraîches du Sahel. Focus Sahel, stop et fin. Au revoir.